C'est le temps de la lecture de la Bible ensemble. Et ce matin, deux textes, peut-être plus compliqués qu'il n'y paraît. Le premier est connu, se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 15. Il s'agit d'une rencontre et d'un entretien. Il y avait, parmi les pharisiens, un homme appelé Nicodème, l'un des principaux parmi les Juifs. Il alla de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus prit la parole et lui dit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Mais comment peut-on naître quand on est vieux ? Peut-on rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit : en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Toi qui enseignes Israël, tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le déclare, nous disons ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » La seconde lecture est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au premier chapitre, les versets 18 à 22. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous adressons n'est pas en même temps oui et non. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché parmi vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été tout à la fois oui et non, mais il n'y a eu que oui en lui. Car toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. Aussi, est-ce par lui que nous disons Amen à la gloire de Dieu. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. C'est lui qui nous a marqués de son sceau et qui nous a donné dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre sentier. Chers amis, frères et sœurs, deux textes qui m'ont plu, mais qui me paraissent effectivement pas aussi simples au premier abord. Rencontrer Jésus de nuit, c'est la situation de Nicodème à la nuit tombée. C'est le premier récit que je vais reprendre un peu avec vous. La deuxième idée, c'est de prendre son temps pour dire oui. Mais sachant qu'une fois qu'on a dit oui, de manière personnelle, particulière, c'est un oui qui est un oui pour Dieu, c'est un oui qui est un oui comme celui de Jésus. Je crois que c'est aussi un oui par Jésus, médiateur, et c'est aussi, bien évidemment, un oui dans l'esprit. Il me semble en effet que l'Évangile repose sur cet adverbe d'affirmation. Vous savez, oui, on le dit, oui, oui, de manière distraite. Quelquefois, on le prononce deux fois, c'est une affirmation sérieuse, oui, oui. Quelquefois, on ajoute deux fois « oui ». Mais cette attitude forte n'est pas non plus dire oui à tout. Parce que dire oui à tout, c'est du béni oui, oui. Or, dans la Bible, nous n'apprenons pas le béni oui, oui, qui est péjoratif et qui est sans réflexion. Nicodème, par son questionnement, nous apprend, je crois, l'humilité devant la parole de Dieu et aussi la nécessité de prendre son temps. Mais ne vous reposez pas trop vite sur mes paroles. Prendre son temps, je veux dire un temps actif. Ça n'est pas simplement le désir de différer. On verra plus tard, on est en recherche. Reporter les questions pour un futur toujours hypothétique. Non, je parle de prendre son temps, mais pour un temps actif. Un oui de questionnement en dialogue avec notre propre vie et la parole de Dieu. Un temps actif, aller chaque jour plus avant dans la compréhension, dans la réalisation de soi-même. C'est le travail intérieur de chaque personne. Et on le voit plus spécialement chez certaines, mais on le voit chez tout être humain. Je pense aux personnes, qu'elles soient artistes, scientifiques, commerçantes, négociantes. Creuser le sens de sa vie à côté des tâches exercées, les tâches qu'elles soient les plus humbles ou les plus prestigieuses. Chacun est aux prises avec cette réalité, chacun est aussi confronté aux éphémères vapeurs de l'illusion. Vous pourriez être Nicodème, parce que ce personnage est d'une étonnante actualité. Alors, revenons à lui. C'est un leader religieux. Il est respecté. Il a, comme beaucoup de pharisiens, constaté les miracles, la prédication de Jésus. Il a dû en être touché et il vient d'assister à un événement assez violent au cours duquel, vous connaissez cette histoire, Jésus ne se gêne pas pour chasser les marchands du temple en disant « ma maison sera appelée une maison de prière ». Nicodème a vu ce personnage Il veut aller plus loin que les apparences ou les perceptions extérieures. Il s'intéresse réellement à Jésus. Et il me semble, à la lecture, que dès le début de l'entretien, on comprend que Jésus a vu le cœur de cet homme, ou la sincérité de cet homme, parce qu'il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Ce n'est pas évident avec un pharisien, on est habitué à d'autres contacts difficiles entre Jésus et ce mouvement. Comme pharisien, Nicodème a l'habitude de placer l'accent sur la partie extérieure de la religion. Il est peut-être un peu rigide, plutôt orthodoxe. C'est aussi un membre influent du Sanhédrin, c'est-à-dire qu'il fait quoi ? Il s'occupe des affaires gouvernementales, de la justice sociale, et avec le souverain sacrificateur, les anciens, les docteurs de la loi, et ces deux partis d'opposition que sont les Sadducéens et les pharisiens. Nous apprenons donc qu'il est membre, lui, du parti des pharisiens. Jésus, d'ailleurs, va lui l'appeler le docteur d'Israël. Il lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Nicodème, une personnalité de référence, nous le voyons à plus d'un titre. Pour vous redire un mot, vous remettre en mémoire la situation du pharisien, voyons ce qu'en dit Paul, qui était membre de ce même parti. Quand il se présente en tant que converti au Seigneur, il dit « Ils savent que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » C'est de cette secte-là que fait partie Nicodème. Et comme je le rappelais, dans la relation de Jésus avec les pharisiens, il y a toujours eu débat entre l'intérieur et la source qui conditionne le comportement extérieur, la religiosité, si vous voulez, appropriée. Alors nous avons un petit éclairage aussi à propos de cette attitude, parce que quand même le discours de Jésus, même s'il parle au cœur de Nicodème, parle aussi à un pharisien, avec les reproches éventuels qu'il peut faire. Donc reprenons ce que nous lisons dans le chapitre 11 de Luc. Petit récit qui peut nous éclairer. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le rebord de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté, insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Et Nicodème n'est pourtant pas pris à partie à propos de l'hypocrisie que Jésus condamne. C'est étonnant comme cette rencontre avec Nicodème va traverser tout l'Évangile. Pourquoi ? Parce que nous voyons Nicodème effectivement venir rencontrer Jésus. Nous le verrons un peu plus tard le défendre discrètement par la considération qu'il a dans son milieu à propos des chasseurs, des vendeurs chassés du temple. Et il va le défendre discrètement à ce moment-là. Et savez-vous encore quand nous verrons Nicodème dans l'Évangile ? Devenu disciple, il sera présent au tombeau avec des choses essentielles pour honorer un mort, avec la myrrhe et l'aloès pour l'embaumement. Cheminement avec une certaine lenteur dont je parlais tout à l'heure et sans éclat. Pour l'heure, nous avons lu qu'il vient de nuit. Il a donc bien vu des signes étonnants se réaliser par Jésus. Mais il voudrait voir ce qu'il y a derrière ces signes. Au fond, Nicodème, inconsciemment, veut savoir ce que c'est que cette prédication de Jésus. Il voudrait savoir ce que c'est que le royaume de Dieu qu'il annonce. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un très bon pédigré, si vous me permettez. Un bon pédigré religieux, il a de la connaissance, il est érudit, il est savant, il est fervent, il est juif. Très vite, Jésus lui montre une autre nécessité impérieuse. Il lui dit tout simplement qu'il y a une nécessité, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut naître spirituellement. Alors la situation devient un peu difficile. Parce que naître physiquement, nous l'avons compris, ça nous fait entrer dans le monde naturel, ça nous pouvons le comprendre aisément. Or, naître spirituellement fait entrer dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans une autre sphère, celle de Dieu. Mais de même que l'on doit naître de manière du naturel, cela les parents et ceux qui sont là le prouvent, ils le savent bien, principalement les mamans, il faut pour une naissance naturelle du temps, des soins, de la patience. De même, on doit naître aussi du spirituel, lentement et en douceur. Ce n'est même pas d'être baptisé qui est déterminant. Jésus ne parle pas de baptême à Nicodème, il lui parle de naissance. L'eau est liée à la naissance physique. C'est intéressant de lire dans le livre du prophète Ésaïe, « Écoutez, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. » Alors que naître de nouveau, c'est expérimenter, je vais employer un mot difficile mais saisissable, la régénération. On peut dire, pour expliquer ce mot, que c'est devenir participant à la nature divine. Au fond, Dieu place sa propre nature en nous comme une nouvelle création. Ainsi, pouvons-nous être d'accord avec l'apôtre Paul, dans les Corinthiens aussi, la deuxième, de Corinthiens 5, qui affirme « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Mais, chers amis, si la naissance physique se manifeste directement dans le domaine naturel et visible, dans le terre-à-terre, la naissance spirituelle se manifeste invisiblement, peut-on dire, dans ses effets sur la personne, un petit peu comme le vent, silencieusement, comme une brise discrète. Nous l'avons dit souvent, l'esprit souffle dans le cœur des hommes. Et qu'est-ce qu'il souffle ? Il souffle un vent de liberté, une liberté capable, et ça c'est très important, une liberté capable de surmonter les déterminismes et globalement toutes les dépenses que nous faisons pour ce qui ne nourrit pas, toutes les pesanteurs de la vie, voire toutes les souffrances inexpliquées. Au près ou au loin. Jésus vient d'être appelé docteur, venu de Dieu, par Nicodème. Eh bien, il va inviter ce dernier à entrer dans la sphère de Dieu, à changer de nature, et lui montrer qu'il y a un moyen pour le transfert dans cette sphère nouvelle. Car les humains sont incapables par eux-mêmes de passer du charnel au spirituel. Cette tentative leur laisse toujours de l'amertume et de la tristesse. Ils ne savent pas trop de quel côté tenir. En venant trouver Jésus à la nuit tombée, discrètement, profondément, Nicodème reconnaît là que ce Jésus est le point de rencontre, qu'il semble par ses paroles, par ses guérisons, par ses miracles, avoir fait une sorte de provision de la grâce, et qu'il est le moyen merveilleux de notre régénération. Alors évidemment, je dépasse un peu l'entretien, mais pour ce moyen-là, je vais m'appuyer sur les Romains. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, j'ai lu ceci, chapitre 8, verset 34. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu les justifie. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et la conclusion du verset, c'est « Il intercède pour nous ». Il semble bien que pour Nicodème, il a trouvé un modèle auquel il pourra s'identifier. C'est vrai que pour en savoir plus, il est venu de nuit et sa discrétion ressemble bien un peu à la nôtre. Nous qui souvent n'osons pas poser ouvertement les questions essentielles qui nous taraudent. Je ne sais pas par quelle crainte. Il propose trois questions que l'on peut résumer ainsi. La première, c'est de faire un point avec Jésus. Es-tu vraiment sûr dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, d'avoir Dieu avec toi ? La seconde, qui paraît simple, c'est comment naître quand on est vieux ? Et la troisième, et s'il est possible de naître lorsqu'on est vieux, alors comment ça se passe ? Chacun peut se retrouver dans cette logique, dans ce questionnement. Les signes et les paroles de Jésus le poussent vers lui exactement comme nos contemporains reconnaissent volontiers que, au fond, Jésus, ce grand prophète, personne n'a parlé et n'a agi comme cet homme. Tout le monde est à peu près d'accord sur ce point. Reste à savoir comment le suivre et quelle est cette naissance nouvelle. Non, là, franchement, est-ce que c'est bien crédible de naître une seconde fois ? Pourtant, je trouve que Nicodème est un peu comme Marie. Vous savez, Marie, dans son dialogue avec l'ange de l'Annonciation, elle commence par dire, mais comment cela peut-il se faire ? Elle est logique, Marie. En revanche, à l'annonce de l'œuvre de l'Esprit, le oui de Marie est immédiat. Et magnifique. Qu'il me soit fait selon ta parole, répond-elle à l'ange. Ah, le oui de Marie. Le oui de Marie pour porter la vie. Le oui de Marie de la foi à Cana. Et son oui douloureux au pied de la croix. Le oui de Marie est le oui de toute une vie. Est-ce qu'elle est née de nouveau, Marie ? Comment, frères et sœurs, ne pas naître de nouveau, d'être régénéré lorsque l'on dit oui à l'Esprit ? Dieu est fidèle. Les anglo-saxons, dans ce cas, disent être born again. Mais ne faut-il pas être un peu illuminé pour parler ainsi ? J'aime bien Nicodème, qui ne dit pas oui aussi vite. Il avance plus lentement, peut-être un peu comme nous. Il a bien vu une lueur dans cette nuit au cours de laquelle il est venu voir Jésus. Et donc il avance vers la lumière. Il comprend qu'il y a eu mal donné, qu'il y a eu un malentendu, il y a eu une incompréhension, parce que Jésus parlait de naître d'en haut, on dit ça comme ça. Et Nicodème, lui, comprend renaître. Au départ, Jésus et Nicodème n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Or, c'est important d'être sur la même longueur d'onde. Naître d'en haut, selon les affirmations de Jésus, plutôt que renaître, c'est d'un renouvellement intérieur dont il s'agit. Parce que Nicodème a acquis de l'expérience au cours de toute sa vie. Il connaît la religion et cela lui fait dire que la proposition de Jésus n'est pas logique. Et pourtant, il perçoit dans les paroles quelque chose d'essentiel. Une envie de naître à autre chose. Mais Nicodème reste, comme nous souvent, encombré par toutes ses connaissances ou par toutes ses préoccupations qui l'empêchent de venir bousculer sa logique, ses habitudes, ses conforts éventuels. Comme Marie a dit oui, Nicodème dira oui, puisque, comme je vous l'ai dit, son personnage traverse l'Évangile tout entier. Il dira oui par sa rencontre, il dira oui par sa défense, il dira oui par son accompagnement jusqu'au bout. Il s'inscrit dans la catégorie de ceux qui disent oui et qui le montrent dans leur attitude, sachant que nos oui les plus flamboyants, comme les plus discrets, s'inscrivent dans le oui ineffable du Christ. Et c'est ainsi que je voudrais terminer cette prédication en revenant aux Corinthiens. Le Christ est le lien entre l'humaine nature et le divin. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, nous lisons en parlant de Jésus, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, c'est-à-dire vous et moi, qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est revenu à la vie pour eux. » Et en Romains 12, « Frères et sœurs, puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous ainsi, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Oui, frères et sœurs, que cette vie qui nous pèse si souvent lui soit donnée. Que cette vie qui nous exalte aussi si souvent lui soit donnée. C'est en se donnant ainsi que nous devenons riches. Avez-vous envie de devenir riche? La conclusion sera dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 8. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Avec Marie, avec Nicodème, présents l'un et l'autre dans les étapes terrestres, il nous appartient, par la médiation du Christ, d'agir. Portez-nous aussi par l'Esprit, en lui disant tout simplement, « Prends, Seigneur, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. » Amen.